Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'évangile de Saint Jean, un peu spécial, c'est-à-dire inhabituel, mais une nouvelle façon de bien comprendre certains aspects très importants de cet évangile. C'est donc le numéro 3, et on pourrait donner comme titre « Les sœurs éplorées ». Presque personne ne prétend que notre monde se porte à merveille et que tout va bien pour l'humanité. Avec tous ces bombardements partout, avec tous ces centaines de milliers de réfugiés qui ne savent pas où aller, et que malheureusement, on ne peut pas absorber partout, il y en a trop. Quel dilemme et quelle honte. Si les rencontres de Jésus avec la Samaritaine et avec Nicodème mettaient l'accent sur ce qui ne va pas, l'histoire de Marthe et de Marie porte sur ce qui peut résoudre le problème. Ce qui ou qui, c'est la réponse, et d'après les chrétiens, cette réponse a pour nom Jésus-Christ. Mais tout d'abord, examinons-le de plus près. Qui est cette figure au centre de la foi chrétienne qui est censée tout remettre d'aplomb? Pour ce faire, nous allons poursuivre dans l'évangile de Saint Jean. Celui-ci évoque les liens de Jésus avec deux sœurs, Marie et Marthe, et leur frère Lazare. Ce frère, ils aimaient tellement. D'après Saint Jean, chapitre 11, verset 5, le Verbe, Jésus, est employé dans les évangiles pour décrire sa relation avec ses disciples les plus intimes. Il se considérait pratiquement tous les quatre comme formant une famille. Et voilà que Lazare tombe malade, au point que sa vie ne tient plus qu'à un fil. Marie et Marthe envoient chercher Jésus, mais leur frère meurt avant son arrivée. Ça m'est presque arrivé aussi, pas seulement une fois. Et je dois vous avouer, je ne méritais pas. Je ne suis pas du tout humble de vous dire cela, parce que c'est la vérité. Je ne méritais pas de m'en sortir. Lorsque il est enfin là, la maison est en deuil et le corps est déjà dans le tombeau. La manière dont il agit, dont Jésus agit, alors fait partie des épisodes les plus connus de l'histoire. C'est aussi l'un des plus révélateurs. Il nous montre non seulement qu'il est et qui il est, mais également ce qu'il est venu faire, pas seulement dire ce qu'il est, mais surtout ce qu'il est venu faire. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Oh, je sais, lui répondit Marthe, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le Maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit plus ou moins, où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison, pardon, et qui étaient à l'endroit où Marthe l'avait rencontré, oui, on peut dire que là, les Juifs sont venus, car ils suivirent Marie en se disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Oh non! En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Et Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Saint Jean chapitre 11, verset 17 jusqu'au verset 36. Notez bien ces indications. Marthe va donc à la rencontre de Jésus et lui lance, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quelques instants plus tard, Marie arrive et dit mot pour mot la même chose. Deux sœurs, la même situation, exactement les mêmes paroles. Pourtant, étonnamment, les réponses de Jésus sont tout à fait différentes. Il entraîne presque Marthe dans un débat. Au message de cette dernière, « Tu es venu trop tard », il répond, « Je suis la résurrection et la vie. Avec moi, il n'est jamais trop tard. » Et j'ai vécu cela plusieurs fois. Et je le répète, je ne le méritais même pas. Alors que son cœur la porte au désespoir, il l'empêche d'y céder. Il lui reproche ses doutes et lui redonne de l'espoir. Face à Marie, qui prononce exactement les mêmes mots, sa réaction est à l'opposé. Aucune argumentation, il reste même presque muet. De plus, au lieu de freiner l'élan de tristesse de son cœur, il s'y associe, il se tient à ses côtés dans la douleur. Il pleure même et ne parvient qu'à demander où est le corps. Des attitudes aussi radicalement différentes constituent plus qu'une simple curiosité ou incohérence. Elles font ressortir non seulement la profonde sagesse de Jésus en matière de relations, mais aussi une vérité plus profonde sur sa personne et sur son identité. Imaginons que vous inventiez une histoire à propos d'un être divin venu sur la terre, déguisé, on peut dire, en humain. Il arrive aux funérailles d'un ami, sachant qu'il a le pouvoir de le ramener à la vie, et va sécher en quelques minutes à peine les larmes de toutes les pleureuses. Quel genre d'émotion éprouverait-il? Vous le décriveriez sûrement souriant, enthousiaste et même enjoué. Vous vous attendriez à le voir se frotter les mains en murmurant tout bas « Attendez un peu de voir ce que je m'apprête à faire. » Ou peut-être lui feriez-vous déclarer d'une voix forte « Je suis la résurrection et la vie. » Les deux réactions pourraient correspondre à quelqu'un qui revendique la divinité. Jamais il ne nous viendrait à l'esprit qu'une personne divine puisse prendre part à la souffrance morale de Marie et même pleurer à ses côtés. Pourquoi une telle force à un moment et une telle vulnérabilité à un autre moment? C'est justement qu'il ne s'agit pas d'une histoire inventée. Cet épisode dévoile dans les faits une vérité que le Nouveau Testament énonce de façon claire par ailleurs. Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Il n'est pas Dieu déguisé en être humain. Il n'est pas un simple homme aux traits divins, mais il est le Dieu-homme. Et ses rencontres avec Marthe, puis avec Marie, nous le dévoilent comme tel. Dans sa rencontre avec Marthe, en déclarant « Je suis la résurrection et la vie », il affirme sa divinité. Seul Dieu peut donner la vie et la reprendre. Remarquez qu'il ne se borne pas à dire « Je peux ressusciter Lazare car j'ai un accès spécial à un pouvoir surnaturel divin. » Mais il annonce « Je suis la résurrection et la vie. Je suis la puissance qui donne vie à tout et garde tout en vie. » Il y a donc de quoi être carrément stupéfait. Ce n'est ni la première fois ni la dernière, que Jésus émet une affirmation de ce genre. Il attire l'attention sur sa divinité partout dans les évangiles. Entre les allusions indirectes et les déclarations explicites, presque chaque chapitre contient une telle revendication. En Saint Luc, au chapitre 10, verset 18, Jésus déclare « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Ses disciples doivent avoir été abasourdis et s'être dit « Comment ? Quoi ? Est-ce qu'il plaisante ? Comment peut-il se souvenir de la chute de Satan chassé du ciel vers la terre avant le début de l'histoire ? Il a donc vu ça. Il affirmait également, indirectement, être de nature divine, choquant ainsi ses contemporains lorsqu'il se présentait comme capable de pardonner les péchés. Il est évident pour chacun de nous que les seules fautes que nous pouvons pardonner sont celles qui ont été commises à notre égard. Car je ne peux pas pardonner à Jacques d'avoir menti à Paul. Seul Paul peut le faire. Par conséquent, lorsqu'il dit à un homme paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés », les témoins de la scène concluent avec raison qu'il prétend être Dieu, puisque cet énoncé implique que tous les péchés commis le sont contre lui. Saint Marc, chapitre 2, verset 5. Les affirmations explicites de sa divinité ne manquent pas non plus. En Saint Jean, au chapitre 5, la foule veut lui jeter des pierres parce qu'il s'est présenté comme l'égal de Dieu. En Saint Jean chapitre 8, même scénario, lorsqu'il affirme non seulement être plus vieux que Abraham, mais être éternel, s'attribuant le nom divin. Avant que Abraham soit né, je suis. Saint Jean, chapitre 8, verset 58. En Saint Jean, chapitre 14, il s'exprime de façon similaire à son entretien avec Marthe. Il ne prétend en effet pas détenir la vérité, mais tout simplement être la vérité. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Jean, chapitre 14, verset 6. En Saint Jean, chapitre 20, Thomas l'appelle « mon Seigneur et mon Dieu ». Saint Jean, chapitre 20, verset 28. Et il accepte cette appellation, marquant l'adoration sans aucun commentaire. Ces revendications ont toujours présenté un grand défi pour les lecteurs des évangiles, et jamais autant qu'à notre époque. La plupart de nos contemporains reconnaissent sans hésiter la beauté, la puissance et le caractère unique de l'enseignement de Jésus. Il est ainsi souvent dépeint comme un grand sage religieux parmi d'autres. Or, comme l'a démontré John Duncan, un pasteur presbytérien écossais du XIXe siècle, suivi au XXe siècle par C.S. Lewis, les affirmations de Jésus quant à son identité divine rendent une telle catégorisation impossible. Les fondateurs de toutes les grandes religions ont dit « Je suis un prophète apte à vous montrer comment trouver Dieu. » Or Jésus lui a dit « Je suis Dieu. Je suis Dieu venu pour vous trouver. » Nous ne pouvons donc pas le considérer comme un simple maître religieux élargissant l'offre de sagesse de notre monde. Il était soit un imposteur assumé, soit un homme nageant en pleine illusion, ou soit un être réellement divin. John Duncan parlait à ce sujet d'un trilemme. Oui, chers amis, les fondateurs de toutes les grandes religions ont dit « Je suis un prophète apte à vous montrer comment trouver Dieu. » Or Jésus a dit « Je suis Dieu, je suis venu pour vous trouver. » Le cas de Jésus exige donc une réaction sans nuance de notre part. Nous avons soit à le dénoncer comme un être sournois, soit à le fuir pour cause de folie, ou alors soit à nous prosterner et à l'adorer en tant que Dieu. Chacune de ces attitudes a donc un sens. Chacune colle à la réalité de ses paroles. Ce qui est impossible, c'est la modération. Il est impossible de lui dire « Vous donnez un bon enseignement très utile, votre pensée est subtile. Ce serait tout aussi simple et malhonnête. S'il n'est pas celui qu'il prétend être, alors sa pensée est tordue et souffre de graves défauts. Or, s'il est bel et bien celui qu'il prétend être, il est infiniment plus qu'un grand penseur. Et comment ? Il nous dit en fait, vous devez réagir à mes revendications. Si j'ai tort, je suis inférieur à tous les fondateurs de religions qui ont eu la sagesse et l'humilité de ne pas se prendre pour Dieu. Si j'ai raison, je suis effectivement le moyen de découvrir Dieu et la réalité suprême, mais je ne suis certainement pas l'égal de ses fondateurs. J'ai discuté avec de nombreuses personnes qui ont cherché différentes façons d'échapper à ce trilemme. L'une des tentatives les plus fréquentes consiste à prétendre que Jésus n'a jamais affirmé être Dieu en objectant notamment comment avoir confiance dans la fiabilité historique des récits du Nouveau Testament. Comment savoir que Jésus a véritablement existé et qu'en plus, il revendiquait la divinité? L'idée qu'il était le Fils de Dieu ne s'est-elle pas développée bien des années après sa mort? En fait, nous avons de bonnes preuves de l'existence et de la manière de vivre de Jésus, tirées de documents historiques extérieurs à la Sainte Bible. De plus, de nombreux spécialistes respectables avancent des arguments convaincants en faveur de l'idée que les évangiles ne correspondent pas à une tradition orale remplie d'éléments légendaires, mais à une véritable histoire transmise oralement et basée sur les récits de témoins absolument oculaires et fiables. La réalité des affirmations de Jésus lui-même sur sa nature divine est prouvée au-delà des évangiles. Les indices historiques disponibles montrent qu'il n'y a jamais eu de débat à ce sujet parmi les chrétiens, ni de moment où ils ne croyaient pas en sa divinité. Ainsi, la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, écrite une vingtaine d'années seulement après la mort de Jésus, contient un hymne chrétien ancien, probablement plus vieux que la lettre même, qui évoque sa condition divine. Notez Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 11. Cela signifie que la croyance dans sa nature divine n'est pas apparue longtemps après sa mort, mais reposait sur son propre enseignement et s'est imposée dès le début dans les cercles chrétiens. Donc, cette tentative d'échapper au trilemme ne fonctionne pas. Se rendant compte qu'ils ne peuvent échapper au trilemme, certains se tournent ensuite vers l'une des options qu'il offre. Pourquoi n'aurait-il pas pu être un imposteur assumé, être un brillant enseignant n'est pas incompatible avec le fait de tromper les gens. Ici, il importe de nous rappeler que les premiers disciples de Jésus étaient tous des Juifs et qu'au premier siècle, ceux-ci avaient une vision de Dieu si élevée, si transcendante, qu'ils refusaient même d'écrire ou de prononcer son nom. Suggérer que Dieu pouvait s'incarner dans un être humain faible, de chair et de sang, ne pouvait que susciter de violentes réactions. Ainsi, l'idée d'un Dieu homme n'aurait jamais effleuré l'esprit des adeptes de la foi juive, quelle qu'ait pu être leur estime pour leur chef. De plus, aucun charlatan n'aurait même essayé de convaincre ses disciples qu'il était divin. Ses chances de réussite étaient nulles. Il le savait, et l'histoire le confirme. Parmi les divers juifs qui ont affirmé être le Messie au premier siècle, beaucoup ont gagné des partisans, mais aucun n'a jamais été adoré comme étant d'essence divine. Peut-être vous demandez-vous si Jésus n'était pas un conspirateur, il pouvait se tromper lui-même en toute sincérité et même croire vraiment qu'il était Dieu. N'avait-il pas une chance, alors, de réussir à convaincre ses adeptes? Non, non, non. Non et non, et voici pourquoi. Aucune grande religion n'a de fondateur ayant affirmé être Dieu. Seuls des mouvements restreints et éphémères en ont eu. Les personnes qui ont prétendu à la divinité en s'illusionnant elles-mêmes n'ont jamais été en mesure de faire croire leur affirmation, sauf par un groupe limité. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible de convaincre les autres que vous êtes Dieu si vous manifestez un seul des défauts courants chez l'être humain. Oui, par exemple qu'il s'agisse de l'égocentrisme, de l'impatience, de la colère, de l'orgueil, de la malhonnêteté, ou voir comme aujourd'hui la cruauté. Invariablement, il y a des personnes qui vous côtoient de suffisamment près pour voir tous vos défauts et être ainsi en mesure de dissiper l'illusion. Si vous ajoutez à cela le profond scepticisme culturel et théologique du judaïsme, il paraît impossible de convaincre une masse critique de juifs que vous êtes Dieu, à moins qu'il ne s'agisse vraiment de l'explication la plus sensée. Et c'est du reste confirmé par des études historiques sérieuses. Un groupe de plus en plus important de personnes qui se disaient avec insistance toujours fidèles au monothéisme juif a néanmoins commencé à adorer Jésus comme étant le vrai Dieu. Quel genre de vie a-t-il mené pour réussir ce que personne d'autre dans l'histoire n'a jamais pu faire, c'est-à-dire de convaincre les autres, et pas un faible pourcentage de déséquilibrés, qu'il était vraiment le créateur et le juge de l'univers. Quel genre de personne a-t-il été pour surmonter la profonde résistance des Juifs face à des affirmations aussi grotesques? Il a dû ressembler à l'être humain d'une beauté incomparable décrit tout au long du Nouveau Testament. Et nous voyons un portrait éblouissant de lui dans le passage étudié. Oui, je répète, un groupe de plus en plus important de personnes qui se disaient toujours fidèles au monothéisme juif, le monothéisme juif, a néanmoins commencé à adorer Jésus, et c'est vrai, comme étant le vrai Dieu. Lorsque Jésus rencontre Marthe, nous avons effectivement un aperçu de sa divinité et de sa puissance. Mais cela n'explique pas totalement qui il est. Or, immédiatement après, il pleure face à la douleur de Marie dans l'ombre du tombeau. Il semble donc difficile d'associer une personne vraiment divine à de telles émotions. Or, c'est son cas. La divinité est jointe à la vulnérabilité humaine. Son amour l'amène à pleurer après avoir affirmé qu'il est la résurrection et la vie, qu'il est Dieu. Il réagit ainsi face à son ami parce qu'il est également pleinement humain. Il est un de nous. Et comment? Il ressent donc l'horrible pouvoir de la mort et la souffrance de l'amour perdu. Ce que Jésus-Christ représente est assez difficile à croire et plus difficile encore à décrire. Il n'est pas à moitié humain et à moitié Dieu, ni à 20% Dieu et à 80% humain, ou l'inverse. Il n'est pas qu'un être humain ayant une conscience particulièrement élevée de Dieu, ni une figure divine donnant l'illusion d'un corps physique. Il est tout simplement Dieu, mais il est aussi absolument et totalement humain. Aucune religion n'est d'accord avec une telle affirmation. Aucune religion ne croit que le Créateur transcendant l'auteur de la vie est devenu un simple mortel faible et impuissant qui a compris la mort, oui, qui a compris la mort dans toute son horreur. Seul le christianisme le fait. Croyez-vous que Jésus était le Dieu homme? Je ne serais pas surpris que cette question vous donne du fil à retordre. Cependant, réalisez l'histoire, observez la façon dont il réagit face à ces deux femmes, et vous verrez que la notion de personne à la fois divine et humaine est exactement celle qui est nécessaire. Jésus procure à Marthe ce que nous pourrions appeler le service de la vérité. C'est ce dont elle a le plus besoin à ce moment-là. Il lui fait voir la vérité en face. Il lui dit « Écoute-moi et ne désespère pas. Je suis ici. Je suis la résurrection et la vie. C'est ce que je suis. » Et dans son identité divine, il peut regarder assez haut pour lui montrer les étoiles. Quand il arrive auprès de Marie, maintenant, il lui offre ce que nous pourrions appeler le service des larmes. C'est différent. C'est ce dont Marie a le plus besoin à ce moment-là. Dans son identité humaine, Jésus peut se faire tout petit pour s'immiscer dans sa peine avec une sincérité et avec une intégrité totale et simplement pleurer avec elle. Tout le monde a besoin d'un service de la vérité et d'un service des larmes en fonction des moments de notre vie. Parfois, nous avons particulièrement besoin de fortifiants de la vérité. Nous avons besoin d'être parfois secoués par un ami fidèle qui nous dit « Réveille-toi et regarde autour de toi. » D'autres fois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une personne qui est prête à pleurer avec nous. Il y a des moments où souligner la vérité à des gens dans la peine est inapproprié. Et il y a d'autres moments où il est tout aussi inapproprié de pleurer avec eux sans leur exposer la vérité. Aucun de nous n'a le tempérament, la patience et la perspicacité nécessaires pour toujours donner aux autres exactement ce dont ils ont besoin. Certains ont une personnalité encline à l'affrontement, même quand la compassion est de mise, tandis que d'autres sont tout le contraire. Jésus-Christ, lui, ne se montre jamais vigoureux lorsqu'il doit être doux, ni doux lorsqu'il doit être vigoureux. Ce n'est pas seulement parce qu'il est le conseiller parfait, mais il est la vérité même, la vérité venue dans les larmes. Il est donc Dieu fait homme. C'est ce paradoxe, le fait qu'il est Dieu et homme, qui lui donne une beauté indescriptible. Il est à la fois le lion et l'agneau. En dépit de ses hautes prétentions, il n'est jamais prétentieux, il n'insiste jamais sur sa propre dignité. Il a beau être totalement accessible pour les êtres faibles ou brisés, il affiche un courage à toute épreuve devant les êtres corrompus et devant les puissants. Il est sensible sans être faible. Il est fort sans être dur. Il est humble sans manquer de confiance en soi. Il assume donc de façon inébranlable son autorité sans aucun égocentrisme. Il se caractérise par la sainteté et des convictions claires, tout en restant adorable. Il manifeste la puissance sans l'insensibilité. J'ai entendu un jour un prédicateur dire « Personne n'a encore trouvé les paroles que Jésus aurait dû prononcer. Il est plein de surprises, mais ce sont toutes des surprises de perfection. C'est incontestable. Jésus est Dieu fait homme. Cependant, une question subsiste. Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi la puissance absolue devait-elle connaître notre faiblesse de l'intérieur? Examinons la dernière partie du récit des sœurs éplorées. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit donc au tombeau. C'est une grotte. Là, il y a une pierre qui fermait l'entrée. Et Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, elle lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Et Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé, et Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, Papa, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est bien toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Il avait encore les pieds et les mains attachés par des bandelettes. Et il avait encore le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Johannes, Saint Jean, chapitre 11, versets 38 à 44. J'ai pris cela dans la version allemande, puisque vous l'avez compris, je suis de langue allemande. Chers amis, de nombreuses traductions de Saint Jean, chapitre 11, verset 38, constituent, on peut dire, une source de frustration pour moi, car elle présente Jésus comme simplement ému ou frémissant, sans évoquer son indignation. Or, voyez-vous, le mot grec évoque l'emportement, c'est-à-dire Jésus s'est emporté d'après les commentateurs et les spécialistes de la langue grecque dont je ne fais pas partie. Jésus est donc fou de rage. Il beugle de rage. On peut dire il rugit. Contre qui ou quoi est-il fâché? Eh bien rien. Rien n'indique qu'il soit en colère contre la famille, par exemple, de Lazare, ou contre quoi. Alors, contre quoi est-il vraiment, vraiment fâché? Nous allons voir cela. Jésus est en rage contre la mort. Il ne dit pas, écoutez, il faudra s'y faire. Tout le monde meurt. Tout le monde tombe malade. Je suis tombé malade. Je crois plus de 50 fois, plusieurs fois entre la vie et la mort. Et je répète, et j'ai honte de vous dire, je ne méritais pas, je ne méritais pas que le Seigneur me guérit, me guérisse, me rétablisse. Je ne le méritais pas. Oui, j'ai honte. Oh, merci Seigneur, que tu as pardonné et que tu pardonnes encore à des horribles créatures. Merci. Oui, c'est comme ça. Résignez-vous? Eh bien non, 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 non. Jésus regarde en face notre plus affreux cauchemar. Il regarde en face la perte de la vie, la perte des êtres aimés et de l'amour, et il s'en indigne. Il en veut au mal et à la souffrance, et même s'il est Dieu, il ne s'en veut pas à lui-même. Que peut-on en conclure? Chers amis, je vous ai dit que je ne méritais pas tout ce que Dieu a fait pour moi. Et c'est vrai. Et à 90 ans, avec la voix qui est parfois absolument inaudible, je prie et je dis à mon Papa Céleste et à son Fils bien-aimé Jésus, s'il vous plaît, si vous le voulez bien, restaurez ma voix pour pouvoir encore faire et dire ce message, cette étude. Et je dis merci. N'oubliez jamais de dire merci. Tout d'abord, le mal et la mort sont le résultat du péché. Oui, j'étais un épouvantable pécheur. Je méritais la mort. Et c'est le résultat de ce péché et ne correspond pas au projet originel de Dieu, ce ne correspond pas du tout au projet original ou originel de Dieu. Car Dieu n'a pas créé un monde marqué par la maladie, par la souffrance et la mort. Et aujourd'hui, par des guerres épouvantables, on lâche même des bombes surpuissantes sur des hôpitaux qui sont innocents, des malades, que des médecins, au risque et péril de leur vie, essayent de soigner, voire des bénévoles qui risquent leur vie. Quel monde! Quel monde épouvantable, chers amis! Nous pouvons tous pleurer ensemble, tellement que c'est affreux. Peut-être vous demandez-vous si Dieu est aussi mécontent du monde tel qu'il est. Pourquoi ne se montre-t-il pas et n'y met-il pas un terme? Oui, pourquoi? Pourquoi n'apparaît-il pas simplement sur la terre pour éradiquer tout ce mal? Ce genre de questions révèle un certain manque de connaissance de soi. La Sainte Bible dit, et nous le savons, dans notre fort intérieur, que la plupart des choses qui vont mal dans le monde vont mal à cause du cœur humain. Ça va mal à cause du cœur humain. Une grande partie de la misère, et elle est due à l'égocentrisme, à l'orgueil, à la cruauté, à la colère, à l'oppression, à la guerre et à la violence. Il y a certaines personnes qui possèdent tellement d'argent que ça représente parfois l'argent de tout un pays. Et je n'en dirai pas plus, vous avez compris. S'ils avaient compris, eux, quelque chose de la vie, ils aideraient des millions de gens qui meurent de faim et de soif. Si Jésus-Christ était venu sur la terre avec les pays de la colère de Dieu contre le mal, aucun de nous n'aurait survécu pour en parler. En effet, au plus profond de nous tous, se trouve le mal et l'égocentrisme. Oui, je répète, si Jésus-Christ était venu sur la terre avec l'épée de la colère de Dieu contre le mal, aucun de nous aurait survécu pour en parler. Jésus n'est donc pas venu avec dans les mains une épée ou une kalachnikov. Mais il est venu avec des clous. On va voir cela. Il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour être jugé. C'est ce que ce passage révèle en commençant à exposer son dilemme. Plus loin, dans le chapitre, lorsque les chefs religieux voient ce que Christ est capable de réaliser en affichant sa puissance, c'est-à-dire la résurrection de Lazare, ils se rendent compte que ce miracle fait de lui quelqu'un de plus dangereux qu'ils ne l'auraient cru. Par conséquent, dès ce jour-là, il tire conseil pour le faire mourir. Saint Jean, chapitre 11, verset 53. Jésus sait tout cela, bien sûr. Il sait que s'il fait revenir Lazare à la vie, l'establishment religieux cherchera à le tuer. Il sait que la seule façon de faire sortir Lazare du tombeau, c'est d'y entrer lui-même. Vous l'avez compris ce que ça veut dire. Il sait que la seule façon d'interrompre les funérailles de son ami, c'est de convoquer aux siennes. Pour nous sauver de la mort, il doit donc aller jusqu'à la croix et porter le jugement que nous méritions et méritons. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'approche du tombeau, au lieu de sourire à la perspective d'impressionner l'assistance, il tremble de colère et des larmes roulent sur ses joues. Il sait ce que cela lui coûtera de nous sauver de la mort. Il sent peut-être son étreinte se resserrer sur lui. Pourtant, sachant tout cela, le ressentiment même au plus profond de lui, il crie en ressentant tout cela dans son âme et esprit, il crie et il dit d'une voix forte, « Lazare, sors !»« Komm heraus !» Et les personnes présentes ont relevé, « Voyez comme il aimait Lazare !» En fait, nous devons remarquer à quel point il nous a aimés, nous tous. S'il est devenu humain, mortel, vulnérable, exposé à la mort, c'était par amour pour nous. en 1961, les Russes ont envoyé un homme dans l'espace. Plus tard, le dirigeant russe, Nikita Khrouchtchev, a tenu des propos audacieux. Je m'en souviens très bien. Il a dit, en gros, « Nous avons envoyé un homme dans l'espace et il n'a pas vu Dieu. Nous avons donc prouvé que Dieu n'existe pas. » Ce n'était pas très solide d'un point de vue logique et philosophique. Néanmoins, il le pensait vraiment. Et des millions de gens développent le même genre de raisonnement, car d'après eux, l'observation, on peut dire empirique, cette observation permet de prouver la non-existence de Dieu. Dans un essai traitant de cette idée, C.S. Lewis avance que s'il y a un Dieu, notre relation avec lui ne peut pas être identique à celle qu'entretient une personne vivante au rez-de-chaussée d'un immeuble avec son voisin de dessus. Car à ce voisin, il lui suffit de gravir l'escalier pour aller le trouver. Or, Dieu n'est pas simplement quelqu'un qui vit au-dessus de nous. Dieu est le créateur de l'univers dans son ensemble, de la terre et du ciel, du temps et de l'espace. Et il nous a créés, nous. Notre relation avec lui ressemble plutôt à celle existant entre Shakespeare et Hamlet. Que peut savoir Hamlet de Shakespeare? Uniquement ce que ce dernier dévoile à son propos dans la pièce. Hamlet ne sera jamais en mesure de savoir plus que son auteur. De même, conclut C.S. Lewis, nous ne pouvons pas trouver Dieu en prenant simplement de la hauteur. Nous ne pouvons le connaître que s'il révèle quelque chose à son propos dans notre vie, dans notre monde, et il l'a fait. Cependant, il ne s'est pas contenté de nous livrer uniquement des informations. Dieu s'est penché sur notre monde, le monde qu'il avait créé, et il nous a vu nous détruire nous-mêmes, tout en détruisant le monde et en nous détournant de lui. Je termine en vous disant, il en a été peiné, Dieu. Et comment? Notez Genèse chapitre 6, verset 6. Dieu, notre Père céleste, nous aimait. Il nous a vus nous battre pour tenter d'échapper à la misère que nous avions nous-mêmes créée. Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est la faute à Dieu, comme tout le monde dit, qu'il y a des ouricanes, des typhons terribles qui dévastent tout, des centaines et des centaines de morts, tout est détruit, des millions d'êtres humains qui doivent être déplacés, c'est pas moi qui le dis, c'était dans les nouvelles de hier soir. Il y a bientôt plus d'eau dans certains pays. Est-ce la faute de Dieu? Est-ce que c'est la faute de Dieu que, dans certains endroits, il pleut en une heure, ce qu'il était comme quantité de pluie en presque 6 mois. Ou alors, il y a des feux gigantesques un peu partout dans certains pays. Tout ça, nous disons que c'est la faute de Dieu. C'est un peu simpliste, ça. Il en a été peiné, Dieu. Genèse chapitre 6, verset 6. Car notre Dieu nous aimait. Il nous a vus nous battre pour tenter d'échapper à la misère que nous avions nous-mêmes créée, je le répète. Il s'est donc fait entrer dans l'histoire. Jésus-Christ, le Dieu homme, est né dans une étable afin de mourir sur la croix pour nous, pour toi comme pour moi. Voilà qui est Jésus. Voilà à quel point il vous aime et comment il est venu pour remettre notre monde d'aplomb. Terminons par la prière. Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Tu dis veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. La nuit est venue. Et les ténèbres, et du fond de l'abîme, nous t'invoquons, ô Éternel, car toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur nous, et nous sommes tombés, mais nous serons debout, debout dans les porches de Jérusalem. Amen. Chers amis, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Le Seigneur vous aime. Soyez bénis. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir, mes très chers amis.